C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteurs nombreux pour la plupart des journalistes, des peintres, des cinéastes et des chanteurs. Œuvre de très nombreux articles de presse dans le monde entier, des films, des tableaux, des chansons. Personnage, ou plutôt type, la Parisienne. Née en 1841, morte en 1976. Il a existé dans le monde pendant une centaine d'années un personnage, ou donc plutôt un type, créé à partir d'observations précises et de commentaires légendaires. Et ce type, c'est la Parisienne. Il a vécu de la Restauration aux années 1960. Certains disent que le premier à en parler a été Rousseau dans La Nouvelle Héloïse, mais Rousseau ou son personnage parle des Parisiennes, pas de la Parisienne. Il reste dans l'entité sans jamais passer au type. Cela ne l'empêche pas d'arriver à un certain ridicule à force d'idées générales sur les Parisiennes comme s'il les connaissait toutes. Et par exemple, leur démarche est aisée et commune. Leur port n'a rien d'affecté parce qu'elles n'aiment point à se gêner. Mais elles ont naturellement une certaine désinvolture qui n'est pas dépourvue de grâce et qu'elles se piquent souvent de pousser jusqu'à l'étourderie. Elles ont le teint médiocrement blanc et sont communément un peu maigres. Enfin, soyons sérieux, quittons Rousseau. La Parisienne comme type est apparue après la Révolution et pour une raison simple, qu'il a fallu que Paris se libère de Versailles où étaient cultivées les oranges et le snobisme. Aux courtisans a succédé la Parisienne. Qu'est-ce qu'une Parisienne ? Je connais une ignorante qui exerce le métier de journaliste, enfin exercé, beaucoup dire. C'est une paresseuse qui se fait inviter à déjeuner, à dîner, ce qui lui laisse peu de temps pour écrire. Quand elle le fait, c'est pour reprocher aux gens qui ne s'en cachent pas d'être nés en province et, s'ils sont intelligents, de les qualifier d'irritants. Pauvre chérie, son ignorance est vexée. Elle se croit parisienne parce qu'elle est née à Paris, mais vais-je rappeler qu'elle est une fille d'émigrés ? Qu'elle n'a rien lu ? Qu'elle est arrivée à son poste parce qu'elle a été la maîtresse d'un très important homme politique ? N'est pas parisienne qui dit l'être, et même au contraire. À très peu d'exceptions près, les gens qui ont créé puis entretenu le type de la Parisienne sont de qualité légèrement inférieure. Je ne dis pas sans talent, mais d'un talent un peu en dessous, moins original, et nécessairement puisqu'il répétait. Écoutez les noms de Jean Béraud, de Charles Giron, et même Renoir, que je ne tiens pas pour un très grand peintre, de Taxil Delors, journaliste du temps de Louis-Philippe, de Léon Gozlan, petit romancier 1850, et de tant de littérateurs payés à la ligne pour rendre les journaux amusants en créant de la légende. Les grands écrivains et les grands artistes, eux, au lieu de commenter des types, inventent des personnages. Qui est la Parisienne ? Pour en parler, je reçois Anne Boulet, rédactrice en chef de Vanity Fair France. Anne Boulet, des graines de Parisienne avaient été plantées avant la Révolution, je crois, grâce à une Autrichienne qui avait fait la célébrité d'une nappe villoise.
Absolument, car comme toute bonne Parisienne qui se respecte, Rose Bertin, qui était donc la ministre de la mode de Marie-Antoinette, était née à Abbeville, était donc des Hauts-de-France, et s'appelait Marie-Jeanne. Donc, énorme mytho, évidemment, dès le départ, mais c'est comme ça qu'on construit des légendes. Et elle a ouvert son magasin rue du Faubourg-Saint-Honoré, qui s'appelait le Grand Mogol. Très beau titre de magasin.
Très simple.
Très simple. Elle allège les silhouettes, alors c'est très relatif, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de paniers encore qui permettent de masquer toutes sortes d'odeurs. Et invente la robe de grossesse, donc elle était très lancée. Et impose ce luxe fantasque et léger, ce qui était à l'époque très mal perçu, à Versailles et dans toutes les cours d'Europe, parce que tout le monde s'arrache Rose Bertin. Et c'est elle qui effectivement institue Paris comme la capitale de la mode indiscutable, chose que toutes sortes de villes ont essayé de lui disputer depuis, mais ne parviennent pas à lui arracher.
Voilà. Tout ça, on le doit donc à Marie-Antoinette, qui l'avait embauchée à la cour.
Qui l'avait embauchée, qui était folle de ce style. Et pour la petite histoire, donc elle est tellement parisienne, Rose Bertin, que donc elle a donné son nom à une station de tramway à Épinay-sur-Seine où elle est enterrée. Donc, voilà. C'est dire à quel point la Parisienne est.
Je descends à Rose Bertin.
Voilà, exactement.
En tout cas, Anne Boulet, vous venez de nous décrire là un élément essentiel de la Parisienne à toute époque, c'est ce qu'on appelait pendant très longtemps la toilette. Une Parisienne est nécessairement coquette.
Une Parisienne est évidemment élégante et tous ceux que vous avez cités plus tôt qui les ont décrits, les romanciers, les peintres, les poètes, font en fait exactement le travail d'un critique de mode. C'est-à-dire qu'ils passent un temps infini à décrire leurs toilettes. On dirait des photographes de street style japonais du début du 21e siècle, tellement ils passent de temps à décrire cette toilette et cette élégance, tout en soulignant, parce que c'est la caractéristique essentielle de la parisienne, cette espèce d'effortless chic, parce qu'elle n'en fait jamais trop, contrairement plus tard ou au même moment aux Américaines, aux Anglaises et à toutes les autres.
Mais y compris du temps de Rose Bertin, c'était pas un peu trop ouvragé?
C'était over, évidemment, c'était très over, mais c'était le goût de l'époque. Et encore une fois, elle dépouille relativement ses silhouettes ultra chargées. Elle a enlevé tout de suite deux rubans et c'est la révolution, quasiment.
Alors, justement, au moment de la révolution, Anne Boulay, la parisienne est impossible, n'est-ce pas? Parce que la révolutionnaire est mère, citoyenne, militante, mais est-ce qu'elle a le degré de frivolité nécessaire pour être une parisienne?
Alors, c'est pas, je crois que l'époque ne se prête pas à la frivolité. Déjà, elle essaie de sauver sa tête, la même Rose Bertin, c'est un tout petit peu expatriée en Angleterre le temps de la révolution, parce qu'en effet, c'était pas l'époque de la fashion police, on parle peu de ça. Alors, il y a quand même effectivement les sans-culottes qui pourraient laisser espérer toutes sortes de choses affriolantes, mais non, je crois que c'est plutôt austère, en effet, et donc, ça n'est pas la meilleure période de la parisienne en tant qu'élégante, ça c'est certain, et même la mode n'est pas, enfin elle vivra de façon beaucoup plus créative sous la Restauration ensuite. Mais
eh bien la voici, la Restauration, et c'est en 1841, le journaliste Taxile Delors du Charivari, que je citais tout à l'heure, qui publie ce qui passe pour être le premier livre sur la question, qui est La physiologie de la parisienne. Alors je l'ai lu ce livre, et il y énonce des stupidités charmantes comme on est parisienne comme on est poète ou rôtisseur. En réalité, Anne Boulay, j'ai plutôt l'impression qu'être parisienne est une œuvre d'art et un vrai travail.
C'est un boulot incroyable. C'est l'époque des salons, évidemment. Donc c'est la grande époque des muses. Mais elles sont effectivement, la parisienne est facilitatrice d'inspiration, de carrière politique, de carrière tout court. C'est le rôle de Madame Récamier pour Chateaubriand. Elles reçoivent, elles sont intelligentes, sinon lettrées. Et en effet, c'est un boulot à plein temps. Et c'est chez elles que ça se passe. C'est là que se défont les réputations, les carrières. Et encore une fois, elles sont soit vécues comme des muses, ce qui est le cas de Stendhal, par exemple, qui pense que c'est un auxiliaire à la création. Ça bâtit des prémices de féminisme pour les plus avancées. Pour les autres, bon, c'est juste des copines qu'on peut un petit peu tripoter, j'ai l'impression. Mais en tout cas, ça va de... Le champ des possibles est assez vaste et elles s'imposent vraiment. Elles sont fondamentales dans cette époque.
Alors, il est très difficile de savoir ce qu'est positivement une parisienne, et Taxile Delors me paraît plus intéressant quand il énonce les interdits, car après tout, un type se définit aussi beaucoup par les oppositions. Et pour lui, il dit cette chose très intéressante: une femme avec un parapluie n'est pas une parisienne. La parisienne est-elle contre l'esprit pratique?
Oui et non, c'est-à-dire que elle est pour l'esprit pratique dans la mesure où il faut qu'elle puisse se déplacer, par exemple. Beaucoup plus récemment, par exemple, à l'époque où tout le monde porte encore des talons, la parisienne a arrêté parce que c'est infernal, donc elle le fait pas. Mais en effet, c'est ce qui est important, c'est les interdits, c'est la fashion police, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ça repose sur des espèces de dictats dont on ne sait pas forcément qui les a dictés, pour le coup, mais c'est très important. Et ça repose, le snobisme, de toute façon, ça repose sur ce qui ne se fait pas. C'est la faute de goût, évidemment. Donc,
Mais tout ça est l'aberration et l'arbitraire le plus total.
Mais total, non, évidemment. Ouais. C'est basé sur une mauvaise foi absolue et un goût, encore une fois, d'un arbitraire inflexible, dont on ne sait pas toujours par qui il est émis. Que ce soit par des hommes ou des femmes, je ne sais pas qui est Monsieur Charivari, mais en tout cas, il a l'air.
C'était un homme.
C'était un homme, d'accord. Voilà. C'était pas du tout un pseudo, par ailleurs.
Non,
il s'appelait vraiment comme ça.
Oui, on s'appelait Taxile beaucoup.
Bon, bien sûr.
Alors, après la Restauration, le Second Empire arrive, et même si on recrée une cour, cette cour est à Paris et pas à Versailles, donc la parisienne peut demeurer, puisque le centre du pouvoir de snobisme reste à Paris. Et il se publie à ce moment-là une boulée quantité de livres sur la parisienne. Léon Gozlan écrit Les Maîtresses à Paris, ce que c'est qu'une parisienne en 1850. Un très grand succès de 1869, et Parisine de Nestor Roqueplan, qui prétend analyser la manière de vivre de la parisienne. Et tout ça, qui est-ce? Des hommes. Le type de la parisienne a été créé par les hommes. Est-ce que la parisienne est un bibelot à l'usage des hommes qui gardent le pouvoir?
Pour cela, oui. Mais enfin, en même temps, il y a Louise Michel. Donc, la vraie parisienne n'a que faire de la manière dont les hommes la théorisent, puisque pendant ce temps-là, elle se bat pour ses droits. Physiquement, puisque par exemple Louise Michel en l'occurrence se bat effectivement, plutôt George Sand s'est travesti en homme pour des raisons pratiques là aussi, effectivement, parce que c'est moins cher. En fait, elle est pauvre au début, donc elle adopte des vêtements d'une garde-robe masculine parce que
c'est pas du tout une affectation.
Elle s'en devient une évidemment. Et puis c'est comme une marque de fabrique comme Karl Lagerfeld plus tard. Mais en tout cas, oui, coexiste probablement encore la femme trophée qui rassure bien ces messieurs et en même temps, pendant ce temps-là, pendant qu'ils sont occupés à théoriser sur des filles bien habillées, où Louise Michel et toutes les autres, toutes les anti-proudhoniennes, qui commencent en effet à prendre les armes au propre comme au figuré, à théoriser les prémices d'un féminisme vraiment, agissant. Pendant ce temps-là, effectivement, on n'est plus sur la cocotte, quoi. Ça, c'est clair.
Donc ça, c'est intéressant parce que vous postulez que la Parisienne n'est pas ce qu'on a cru longtemps, c'est-à-dire cet objet joli et ravissant et ce bibelot, et vous mettez Louise Michel parmi les Parisiennes.
Absolument.
Est-ce qu'elle était native de Paris?
Bien sûr que non, comme toutes les Parisiennes, sinon elle n'entrait pas dans elle était née en Haute-Marne, pour autant que je m'en souvienne. Donc elle remplit parfaitement sa fonction de Parisienne. Et elle est, je crois, enterrée à Boulogne-Billancourt, mais il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, oui, bien sûr, ainsi que les dames qui tenait salon. C'est-à-dire que ça fait fort longtemps que pendant qu'on pense que les Parisiennes sont idiotes et mettent des faveurs à des moutons, en fait, elles lisent, elles écrivent même parfois, incroyable, Madame de Staël, tout ça, et elles ont un rôle beaucoup plus important que ce qu'une certaine littérature, parce que les grands auteurs du 19e siècle les reconnaissent, en font des personnages plus intéressants que ça.
Ah, pardon de vous interrompre, mais... Non. Balzac n'aime pas beaucoup les Parisiennes, justement. Alors, parce que peut-être, ça correspond à ce que vous dites, parce que Balzac est réactionnaire.
Oui, elles sont
et donc, il n'aime pas l'esprit dont se pique la Parisienne.
Oui,
il le dit souvent.
Mais c'est un danger. Évidemment, les femmes qui savent lire sont dangereuses et je pense qu'un certain, effectivement, elles commencent à être menaçantes, probablement. En effet, parce que c'est pour ça qu'on les prive d'éducation et de pouvoir et de droit de vote, etc. C'est que, si elles n'étaient pas si dangereuses, on les laisserait faire ce que font les hommes.
Donc la Parisienne est un cerveau qui se bat contre un jupon?
Non, elle a réconcilié, je pense, les deux.
Est-ce que Louise Michel était bien habillée?
Je ne crois pas qu'elle passait beaucoup de temps devant son miroir, mais c'était une femme stylée. Les idées, ça donne du style aussi. La confiance, l'intelligence, c'est mieux qu'un vêtement bien coupé.
La Parisienne triomphe nationalement et internationalement, je n'arrive pas à le dire, sous la Troisième République. À preuve, à l'exposition universelle de 1900, il y avait une statue de Paris devant le Petit Palais. Et cette statue de Paris a été surnommée par tous les visiteurs la Parisienne, croyant que ça représentait ce type. Et ça, des gens du monde entier. C'est-à-dire que vers ce moment-là, la Parisienne est devenue une chose mondiale.
Déjà, on a exporté Marianne. Enfin, on a inventé Marianne. Donc Marianne, c'est évident qu'elle est parisienne, d'un certain point de vue. Enfin, en tout cas...
Oui, c'est la sœur de Gavroche.
Oui, donc elle est parisienne et c'est le modèle de la Parisienne, en fait, dans toutes les mairies, dans tous les bâtiments publics. Et c'est, en effet, elle incarne la France à l'international, presque, dès qu'elle est inventée. C'est incroyable. C'est une image. Et donc, c'est un logo, c'est tout ce qu'on veut, c'est une incarnation. C'est comme Athéna pour la Grèce. C'est tout à coup, en effet, l'incarnation de la Parisienne avec des idées. Pas beaucoup de soutifs, mais des idées.
Alors je voudrais, Anne Boulet, que vous me commentiez le premier tableau qui ait jamais été peint sous le nom de La Parisienne et qui est un tableau de l'affreux Renoir en 1874. Décrivez-moi ce tableau.
Les goûts et les couleurs. Alors c'est une jeune femme qui s'appelle, une actrice qui s'appelle Henriette Henriot, qui a 16 ans, qui en paraît 76 en effet, et qui est donc habillée tout en bleu dans un décor peu contextualisé, c'est-à-dire que c'est impossible de reconnaître Paris, en tout cas on ne peut pas dire qu'elle pose devant la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe, qui n'existe pas par ailleurs, mais c'est pas grave. Et donc, on ne voit que son visage et ses vêtements. Donc là aussi, on est effectivement dans le street style japonais à mort. C'est vraiment une gravure de mode. On voit très bien les détails de la toilette. Elle regarde, donc c'est un regard direct, ce qui est assez rare. Et elle a les cheveux lâchés sous le chapeau. Donc c'est quand même la peinture, qu'on l'aime ou pas, la peinture d'une femme qui est libre, qui en effet se lâche les cheveux, regarde le spectateur directement dans les yeux. Et
enfin, pardon, Boulay, elle est libre, mais elle a un tape-cul, elle doit mettre 2 heures
la
pour
mode.
S'habiller.
C'est parce que Paul Poiret n'est pas encore arrivé pour nous débarrasser de tout ça, mais c'est pas de sa faute, la pauvre. C'est que c'est comme ça, la mode le veut, on n'a pas encore jeté le corset ni le soutif aux orties. Il faudra attendre, 1912, la Première Guerre mondiale, donc on en est quand même encore un petit peu loin. Et il est convenu de penser qu'elle forme, avec la danseuse et la loge, le triptyque de la vie de la femme parisienne. qui donc passe de l'adolescente à la cocotte, donc en passant par la case actrice, mais voilà. Et ce qui est amusant, c'est qu'évidemment, elle est exposée à Cardiff, pas du tout à Paris. Donc notre théorie se vérifie, la Parisienne est partout sauf à Paris.
Et d'ailleurs, la Parisienne, nous parlons là de révolutionnaires, de bourgeoises, de Rose Bertin, mais il y a, Anne Boulay, une catégorie de Parisienne un peu spécifique, et je pense à la fille d'un travailleur journalier et d'une couturière, et c'est Miss Tinguette qui chante en 1936 « Oui, je suis de Paris » ou plutôt « Oui, je suis de Paris », car la variation de la Parisienne est la Parigote.
Bien sûr, qui a cet accent incroyable d'Arletty, etc. Alors ça arrivera avec les enregistrements, mais elle a un accent, en effet. Elle a un accent et elle a l'accent des faubourgs.
Donc ça veut dire qu'elle n'est pas nécessairement bourgeoise.
Elle n'est plus, en tout cas, à cette période-là. Elle a pu l'être, elle l'a été. Mmh. Alors effectivement, les peintures que vous donniez tout à l'heure, elle est quand même plutôt bourgeoise, quand elle n'est pas révolutionnaire, donc. Mais après, oui, arrive un espèce de type de Parisienne qui est un peu la cousette, la fille des faubourgs, mi-cocotte pour être sympa.
La Lorette.
Voilà, exactement. Qui a un franc-parler. Alors elle est effectivement très délurée, quoi. Voilà, ça c'est le personnage de la Parisienne tel qu'on s'en souvient dans le début du cinéma parlant notamment.
Et est-ce que Anne Boulay, dans les représentations de la Parisienne ou l'idée qu'on s'en fait, et pour l'instant on n'a pas parlé d'aucune, était-il possible qu'il existe une Parisienne vieille ?
J'ai pas l'impression. C'est pas le meilleur âge de la vie, la Parisienne.
Pour en finir avec cette période d'avant-guerre, le musée Carnavalet a montré en 2013 une passionnante exposition qui s'appelait Le roman d'une Parisienne à partir d'une ancienne vendeuse de maison de couture qui avait épousé un banquier. C'est toujours bien pour continuer à s'acheter des robes.
Donc, la maison Cher 8, qui a été énorme.
Voilà.
Et qui,
on disait
Cher 8. Le monde, oui, je crois. Enfin, j'étais pas née, contrairement à vous. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que cette maison, qui était une des plus populaires des années 30, personne ne se souvient même de la manière dont on prononce le nom. Les carrières sont courtes, parfois.
Et je crois que cette maison Cher 8, vous fait un peu penser à un personnage de Proust.
Alors non, ce qui me fait surtout penser au personnage de Proust, c'est le titre même de cette exposition qui est effectivement le roman
d'une Parisienne.
Parce qu'il y a quelque chose d'éminemment romanesque dans la Parisienne et que en effet, là, pour moi, la Parisienne, quand on parle de roman de Parisienne, je pense à Marcel Proust et à Oriane de Guermantes, qui est décrite ainsi, tout un poème d'élégance et la plus fine parure, la plus curieuse fleur du beau temps. C'est effectivement, et il élève, c'est le premier, vraiment, enfin, ou celui qui élève le mieux, l'élégance au rang d'art. Et le fait que cette exposition s'appelle le roman d'une Parisienne prouve à quel point, en effet, l'élégance est élevée au rang d'art par la force de ces femmes, de leur goût, Alice Allôme, ce qui était fascinant dans cette exposition, c'est qu'elle mélangeait, en effet, de la haute couture, puisque le prêt-à-porter n'existait pas, de la haute joaillerie et vraiment de la quincaillerie, quoi, des trucs qui valaient rien du tout. Et ça, c'est vraiment le talent ultime de la Parisienne, c'est cette faculté de se bricoler un truc incroyablement chic avec des choses évidemment très chères et très griffées, mais aussi avec des petites choses que l'on trouve au marché, etc.
Et ce qui était frappant aussi, pardon de vous interrompre, c'était l'impérialisme de la Parisienne, car dans cette exposition, on voyait que ses enfants avaient droit au pyjama qui était comme ci ou comme ça,
exactement.
C'est-à-dire que le goût devait se répandre tout autour d'elle.
Fashion à mort, ouais, exactement. Ça. Elle ne tolérait aucune faute de goût.
Nous allons maintenant entendre le groupe Les Parisiennes chanter Les Parisiennes. C'était en 1966, Les Parisiennes sont toujours pressées.
Café au lait et pour rêver ou profiter.
Anne Boulay, l'idée de la Parisienne était si forte que, même sous l'occupation, on a tenté de maintenir ce qu'on appelait un esprit de Paris et de la Parisienne. À ce sujet, d'ailleurs, je recommande un très bon livre sur les Parisiennes sous l'occupation qui vient de paraître par Anne Seba chez Vuibert. Qu'est-ce que c'était la Parisienne sous l'occupation dans un moment où, normalement, la Parisienne était privée de tout?
Oui, mais justement, c'est l'élégance, c'est ce qui reste quand on n'a plus rien. Donc, elle se dessine des faux bas-coutures avec des crayons ou du charbon, etc. Et Lucie Aubrac, que j'ai connue dans mon jeune temps, me racontait un jour que je faisais un pantalon dans le dessus de lit de mes parents, qu'elle, pendant la guerre, du coup, elle se faisait des jupes dans les rideaux. Et un peu comme Scarlett, exactement,
oui,
Scarlett O'Hara, évidemment. Mais c'est vrai qu'elle ne renonce pas. Au contraire, c'est une espèce de défi, je pense, à tout, à toutes les atrocités qu'il y a autour d'elle et les privations, etc. Elle baisse pas les bras et elle lâche pas l'affaire, quoi. Donc elle reste élégante malgré le manque total de moyens. Et c'est là-dessus d'ailleurs que la mode moderne va se bâtir, parce que ça aussi crée des choses, des nouvelles silhouettes, etc. Parce qu'il n'y avait plus les choses qu'on pouvait faire avant.
En même temps, on pourrait dire que cette idée de maintenir le supposé esprit français, malgré la présence des Allemands, n'a pas beaucoup contribué à développer l'esprit de résistance. Parce qu'on pourrait dire, voilà, on a continué à être frivole et il y avait des choses plus sérieuses à faire. Mais aussitôt, pour m'opposer à moi-même une objection, il y a eu aussi des Parisiennes résistantes et très élégantes. Et je pense à Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui était une bourgeoise de Paris et communiste.
Moi, je pense au contraire que la frivolité, c'est une forme de résistance. Il y a plusieurs formes de frivolité. Il y a s'envoyer en l'air avec le moindre officier nazi qui passe, hein, ce qui arrive. Mais il y a aussi, effectivement, dire que cette espèce d'esprit français et parisien, en effet, d'élégance au rendard et d'élégance coûte que coûte, au contraire, c'est une sorte de doigt d'honneur à tout ce qui se passe autour et c'est une valeur morale forte. On ne peut pas réduire ça à la frivolité du chiffon. C'est pas vrai, sinon ça aurait pas mobilisé des esprits aussi importants que même Mallarmé, je vous rappelle, qui signait les chroniques de mode sous le nom de Mademoiselle Chiffon. C'est dire à quel point on peut pas rabaisser la mode à ça. Et au contraire, je pense que on le voit aujourd'hui à quel point c'est politique le vêtement. Donc pour moi, au contraire, c'est un acte de résistance politique très fort.
Mallarmé était une honteuse, car il signait sous pseudonyme, alors que Oscar Wilde, qui vers la même époque tenait une rubrique dans The Woman's World, signait Oscar Wilde. Non, je dis ça, on a l'air de plaisanter, mais c'était beaucoup plus risqué.
Deux pièces, deux ambiances.
Voilà. Pour en revenir à cette question de la frivolité de la résistance, je signale que la section de Paris de l'Union des femmes françaises, qui était une association émanant du PCF, a publié de 46 à 56 un bulletin nommé La Parisienne. Anne Boulay, seriez-vous d'accord avec moi si je dis que si Françoise Sagan avait été communiste, Jacques Duclos serait devenu président de la République?
Mais pourquoi pas? Après, c'est vrai que par ailleurs, en tout cas dans ce qui concerne le conseil municipal de Paris, l'immense majorité des conseillères de l'époque étaient évidemment communistes. C'est un parti dont la volonté délibérée était de favoriser la participation des femmes à la vie politique parisienne, en tout cas. Ils avaient compris le symbole que c'était, et c'était bien c'était les premiers et les plus efficaces.
Le type d'élégance de la Parisienne a évolué, évidemment, pour se maintenir. Est-ce que vous diriez qu'après-guerre, elle est devenue chic alors qu'auparavant, elle était élégante?
Non, on ne peut pas dire ça, parce qu'il y a d'abord, il faudrait pouvoir définir vraiment l'énorme différence entre le chic et l'élégance, et ce n'est pas si facile. Disons que ça s'est aussi banalisé, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une mondialisation qui a un petit peu, propagé le style parisien un peu partout, un accès à la mode, le prêt-à-porter a tout changé quand même. Alors au début, effectivement, il y avait quelques privilégiés qui pouvaient se payer du Saint-Laurent rive gauche, mais le prêt-à-porter a radicalement changé les choses. Et puis là, maintenant, ça s'est considéré. Il y a peu de gens très mal habillés aujourd'hui. Ça devient presque difficile d'en trouver.
Ah bon, vous ne trouvez pas qu'au contraire, tout le monde est mal habillé?
Moi, je trouve que les gens ont fait des progrès faramineux. Et après, on le prend comme c'est, mais le livre d'Inès de la Fressange qui s'appelle Les Parisiennes et qui a paru en 2010 a été traduit dans 17 pays et s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça prouve qu'il y a en tout cas un appétit qui n'est toujours pas rassasié pour les conseils de vie de la Parisienne. Ça reste un mythe et malgré tout, moi je trouve que ça se maintient hors de l'eau beaucoup mieux que dans toutes les autres villes. Cocorico.
Oui, oui, c'est ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai plutôt l'impression que la Parisienne a disparu et qu'elle a même été enterrée dans une espèce d'apothéose en 1976 quand une chanson chantée par une niçoise, chanson écrite par un Belge et un niçois qui s'intitule La Parisienne. Évidemment, c'est Marie-Paul Bell et de
et
Marie-Paul
Bell, Malé
Joris et Grisolia que je parle, oui, oui, puisqu'elle était niçoise. Cette chanson gay était en réalité une marche funèbre. C'est pour ça qu'au début, en m'amusant, je donnais ces dates de naissance et de mort, 1841, le roman de Taxile Delors, et 1976, la chanson de La Parisienne. Est-ce que vous ne croyez pas que La Parisienne a été tuée par l'excès de marchandisation ?
Charles, La Parisienne est increvable. Elle renaîtra de ses cendres, quoi qu'il advienne, et quoi qu'il se passe. C'est-à-dire qu'elle a survécu à tout ça, et elle survivra bien pire.
Pour vous, elle ne se cache pas en voyant les atroces publicités du parfum Yves Saint Laurent qui s'appelle La Parisienne, où on voit une Kate Moss vieillie devant une tour Eiffel.
Non, moi ça ne me choque pas. De toute façon, c'est comme pour tout le reste, fluctuate, nec mergitur. C'est-à-dire que rien ne l'atteint. Elle trouvera autre chose, elle renaîtra sous une autre forme, elle vous surprendra encore et vous regretterez de l'avoir enterrée beaucoup trop tôt.
Vous tombez en plein dans mon avant-dernière question, c'est que ce mélange de narquoiserie, d'élégance, d'oisiveté qui existe beaucoup moins à Paris, est-ce qu'il n'a pas réapparu dans un autre pays et évidemment sa capitale ? Anne Boulay, la nouvelle parisienne, serait-elle la Béroutine ?
Ah, alors c'est intéressant, parce que par ailleurs, on l'a peu évoqué, mais la Parisienne, c'est évidemment la créature de Kiraz, qui lui-même était né au Caire, c'est dire à quel point il était parisien.
Alors dites-nous qui était ce Kiraz.
Alors tout Kiraz, parce qu'il est toujours de ce monde. Absolument, il doit avoir 95 ans. Il s'appelle Edmond Kiraz, il était né au Caire, il était dessinateur politique, il a commencé par faire des caricatures d'Hitler, ça mène à tout, et donc il arrive à Paris avec le premier cargo qui fait le Caire-Paris. Rame un peu et commence à dessiner chez Jour de France, où Dassault invente la Parisienne. Il dit mais il dessine déjà des filles avec des grandes jambes, des petits nez,
c'est
des
Dassault
yeux.
Qui lui
c'est
a
Dassault
dit...
qui a inventé la Parisienne. Il trouve que c'est une idée débile, mais il le fait. Et en effet, il invente ce personnage avec des très grandes jambes et des tout petits shorts, des grands yeux, mais qui a l'air idiote, ne l'est évidemment pas.
Qui est très moqueuse.
Qui est super moqueuse et qui pense... Enfin, qui laisse penser aux hommes qu'elle est un objet, alors qu'elle les manipule totalement, notamment à des fins financières. Et il dessinera la Parisienne pendant des années, ça a donné lieu à toutes sortes de publicités, etc. Et en effet, cette créature, fantasmée totalement, sort de l'esprit d'un homme du Levant, en fait. Donc pourquoi pas ? Mais moi, je pense que la Parisienne reste à Paris. Elle attire les... Paris est un creuset, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Elles sont toutes provinciales, voire étrangères, les Parisiennes. Donc eh ben, ça continue, voilà. Et puis on absorbera encore toutes sortes de choses et on inventera encore autre chose, et voilà.
Où êtes-vous née, Anne Boulay ?
Je suis née à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, mais j'ai grandi à Strasbourg.
Ça, vous faites-vous une Parisienne ?
J'ai donné 4 enfants à cette ville. Je suis totalement parisienne et je défie quiconque de me le nier.
Anne Boulay, que vous a appris le personnage ou disons le type de la Parisienne ?
Eh ben, je suis exactement comme toutes ces femmes, c'est-à-dire que je pense que je suis née à moi-même dans cette ville, qui est en effet une sorte de catalyseur incroyable, une source d'inspiration sans fin, parce qu'il s'y passe des choses qui se passent nulle part ailleurs, quoi qu'on en dise, et que on peut y être libre, pour le moment en tout cas, ou depuis toutes ces années que j'y vis, depuis plus de 30 ans, et être exactement qui on veut, sans craindre le jugement des autres. Et j'espère que ça durera.
C'était Personnage en personne, le 44e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Charlot, créé par Charlie Chaplin.
Comme si j'étais assis.
Réalisation Clotilde Pivin, attachée de recherche et de documentation Daphné Abgral, prise de son Jean-Michel Bernot.
De l'autre côté de ma vie, le paradis acquis.
Dans un instant, Joël Gaillot.
C'était un grand jeudi. Tous les jours, paradis. De l'autre côté de la rue, mon paradis.